Le monde scientifique, faut pas oublier, il est quand même assez rugueux sur certains sujets. Il aime pas les gens de l'extérieur. Voilà. Si on est, excusez-moi l'expression, pour nourrir, alimenter un peu leur recherche, ça va. Mais si à un moment donné, on va orienter quelque chose, là, ça va plus trop. Donc, il faut que ça soit d'égal à égal quand on rentre sur ce terrain-là. Chacun a son expertise. On est tous experts de son quotidien, mais quand on va chercher quelqu'un qui a initié, qui a fait pas mal de choses, bah, à un moment donné, il faut lui faire confiance aussi, quoi. Et souvent, bah, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va venir, on va te prendre en tant que personne handicapée, comme étant un sujet, mais on va pas te prendre en tant qu'expert.
Handicap, au défi du transfert de connaissances. Une série audio proposée par la FIRA dans le cadre du programme Clap sur la recherche. Réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige.
Vous l'avez reconnu ? Eh oui, c'est encore Riyad Salem, champion de basket fauteuil et de rugby fauteuil, à qui j'ai laissé le soin de vous mettre l'eau à la bouche de ce nouvel épisode sur le transfert de connaissances dans le champ social du handicap.
Épisode 3, les nouveaux experts.
Alors, on a vu que pour optimiser le transfert des connaissances, le mieux, c'est d'impliquer dans la production de connaissances les acteurs de terrain, celles et ceux qui vont mettre en pratique les résultats de recherche dans leur vie, et donc, en premier lieu, les personnes handicapées. Écoutons ce qu'en disait Jeanne Tandéro au sortir d'une recherche participative née à l'initiative d'Advocacy France et qui a été soutenue par la FIRA. Une recherche de 2018 sur les conditions de prise en compte de la parole des personnes dites handicapées psychiques par les décideurs publics.
Moi, mon expérience, ça m'a énormément apporté d'être à cette recherche-action parce que depuis que j'ai mis le pied à l'étrier dans cette recherche-action, bah, j'ai beaucoup changé dans ma vie. Ça a renforcé la confiance que j'avais perdue un peu parce que j'étais pas tombée dans des bons endroits avec des bonnes personnes. Ça a renforcé mon altruisme parce que, pensez à l'autre, quand on est dans une association avec des personnes en situation de souffrance psychique, c'est très important. C'est l'entraide mutuelle, c'est beaucoup de choses comme ça. Ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus autonome, d'avoir envie de me battre pour les autres, pour ceux qui ne peuvent pas parler. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à parler, à dire ce qu'ils ont sur le cœur, à exprimer leurs besoins et leurs difficultés. Et ça m'a permis aussi de me dire que peut-être que la vie elle est difficile, mais que des fois ça vaut le coup de se battre. Et je suis très fière d'avoir fait cette recherche action. Et si c'était à refaire, je courrais pour aller la refaire.
Cette recherche a été une réussite, tant en termes d'émancipation pour les personnes concernées qu'en termes d'amélioration des pratiques professionnelles. La participation de tous et de toutes, c'est gagnant-gagnant. Florence Leroy, qui était secrétaire d'Advocacy France pendant cette recherche, l'exprime elle aussi très bien.
Je pense que c'est nous qui avons les clés de notre vie. Je pense qu'on peut nous aussi donner des conseils sur ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous. C'est pas forcément aux professionnels de décider à notre place, mais nous, on peut les aider à leur donner les clés. Par exemple, quand ça va pas, qu'on ait le mode d'emploi, par exemple. Quand on va bien, qu'on dit, ben voilà, si je vais pas bien, je voudrais ci, je voudrais ça. Et ça, c'est très utile, même dans la vie quotidienne.
Les propos de Florence et de Jeanne font suite à une recherche menée par des personnes dites handicapées psychiques à qui ont été reconnus le statut d'expert. Ça a été une des premières du genre en France. Encore aujourd'hui, reconnaître à des non-scientifiques intégrés dans des recherches le statut d'expert, c'est pas évident pour tout le monde. Vous vous souvenez de Julie Desrosiers, enseignante et chercheuse à la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne ? Son domaine d'expertise, c'est la santé mentale. Je lui ai demandé si ça avait été simple de faire reconnaître l'expertise des personnes handicapées en tant que co-chercheuse.
Un des aspects qui a été assez choquant, c'est que c'était une équipe de professionnels. On avait des gens ultra formés qui ont dit, nous, au niveau des connaissances, ça va, il y a un paquet de trucs qu'on a, mais... C'est une des questions que je leur avais posées, c'est sur le processus, êtes-vous d'accord qu'on inclut dans l'équipe de recherche des patients, des gens qui ont des troubles de personnalité? Et ça a été la question, comme si j'avais posé une bombe, c'est non, il n'y en est pas question, ces gens-là n'ont pas d'autocritique, ces gens-là ne peuvent pas participer à la recherche. Puis, tu sais, dans ma perspective à moi, tu sais, il n'y avait aucune raison de ne pas les impliquer, mais pour eux, c'était fin de non-recevoir. Alors, moi, mon point de vue, c'était qu'il fallait, que ce savoir expérientiel-là fasse partie du développement des connaissances. Alors, c'était ça la donne, c'est on veut rien savoir de leurs paroles dans la recherche. Alors, je suis allée doucement à faire passer des consultations, des focus group, intégrer ces connaissances-là, ces points de vue-là à l'intérieur de ma recherche. Et ce que ça a donné, c'est un résultat qui porte complètement la parole des personnes. Mais c'est là, on voit que dans le transfert des connaissances, il y a toujours une partie politique. Il faut prendre position.
Je crois que c'est ça qui m'a plu tout de suite chez Julie et que j'ai retrouvé chez pas mal de personnes que j'ai interviewées. Elles se mouillent, elles croient en ce qu'elles font, elles s'investissent vraiment pour que les savoirs expérientiels soient reconnus. C'est d'autant plus remarquable qu'elles sont un peu pionnières dans ce champ du transfert de connaissances. Du coup, elles ont souvent été obligées de batailler pour faire valoir la place des personnes handicapées ou des autres non-scientifiques en tant que co-chercheurs ou co-chercheuses. Et pardon au passage à toutes les femmes que j'invisibilise quand parfois je mentionne uniquement les chercheurs au masculin, excluant ainsi les femmes de nos imaginaires et de la réalité professionnelle à laquelle ça renvoie. Revenons à nos moutons chercheurs et chercheuses, puisque mouton, pour le coup, c'est générique.
Handicap au défi du transfert de connaissances.
C'est pas toujours facile de bousculer des habitudes bien ancrées. Passer de l'exclusion des personnes handicapées du champ de la recherche à leur inclusion en tant que co-chercheuse, je comprends que ça puisse demander un peu de réflexion, voire de formation. En même temps, des chercheuses comme Jennifer Fournier, pour qui les recherches participatives n'ont presque plus de secret, n'ont pas eu besoin d'y réfléchir pendant 1000 ans. Et je crois pas que Jennifer, qui est sociologue à l'Université Lyon 2, avait été formée à intégrer des non-scientifiques dans ses équipes de recherche. Alors je suis allée lui poser la question. T'avais été formée, toi, pour mettre en place des recherches participatives ?
Non, j'avais pas été formée. Je suis très convaincue et je pense que vraiment la qualité... Encore une fois, parce que bon, dans la recherche, il y a aussi la dimension de production de connaissances. Enfin, ça fait partie du job qu'on doit faire et je pense que c'est important de le tenir et pas seulement de produire des outils, par exemple, mais de produire de la connaissance. Et je pense que la qualité de la connaissance qu'on produit, elle est sans aucune mesure avec une démarche qui n'associe pas de façon étroite les personnes concernées. Alors moi, je parle aussi d'un point de vue particulier qui est celui de mon travail sur le handicap, peut-être qu'il y a d'autres chercheurs qui diraient d'autres choses parce qu'ils bossent sur d'autres sujets. Mais je trouve que de ne pas associer les personnes concernées quand on fait de la recherche sur le handicap, je trouve ça dingue, en fait. Je trouve que ça n'a pas de sens, enfin, voilà.
Voilà qui me rappelle les mots de Muriel Mauguin qui nous avait expliqué pourquoi faire participer les personnes handicapées aux recherches, c'est pas radical. C'est tout simplement suivre les recommandations de la Convention pour le droit des personnes handicapées de l'ONU. Alors, puisque j'étais avec Jennifer Fournier, je lui ai demandé comment ça s'était passé durant la recherche « Mes amours, accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes avec déficience intellectuelle ». Dans cette recherche participative, les personnes handicapées et celles issues du milieu associatif ont toutes été considérées comme des expertes, de nouvelles expertes, avec des apports certes différents de ceux des scientifiques, mais des apports précieux. Jennifer m'a d'abord raconté que ça a été beaucoup d'organisation pour réunir tout le monde autour de la table de recherche. Il a fallu faire venir ces personnes à Lyon durant les week-ends parce que la semaine, elle bossait, parfois dans des établissements spécialisés. Et j'ai voulu savoir ce que ça lui avait apporté. En gros, est-ce que ça en valait la peine ?
Dès qu'on associe des professionnels, des personnes en situation de handicap, d'autres qui sont pas des chercheurs professionnels, entre guillemets, ça a des effets de reconnaissance absolument massifs. Et du coup, quand on se sent reconnu, eh ben, évidemment, on se sent légitime à faire d'autres propositions, à améliorer ses pratiques, à en parler. Par exemple, les personnes qui ont participé à Mes Amours, les personnes avec déficience intellectuelle, elles se sont mises à se sentir légitime à apporter leur soutien à d'autres, aux collègues des AT qui avaient des questions sur la relation amoureuse ou sur la sexualité. Ça fait des personnes qui tout à coup avaient pris beaucoup plus l'avion que leur papa ou leur maman, se sont mises à voyager seules. Enfin, ça, c'est pas que dans la recherche qu'on se raconte, ça produit des effets à plein d'endroits, en fait. Ça fait des gens qui prennent la parole en public, qui enfin, voilà, se sentent autorisés et légitimes pour prendre la parole en public et dire ce qu'ils ont à dire. Ça fait des professionnels qui adoptent des postures qui ne sont plus des postures d'expertise des besoins d'autrui ou d'expertise sur autrui, mais des postures de facilitation, c'est-à-dire où je vais permettre à l'autre de se déployer pleinement et qu'il soit en premier et qu'il soit d'abord, et je vais être en soutien, ou je vais m'assurer qu'il a bien compris, ou je vais éventuellement être dans une posture qui est beaucoup plus en arrière-plan. C'était très très intéressant de se rendre compte comment les relations, elles ont bougé entre les professionnels engagés dans la recherche et les personnes en situation de handicap. Il y avait quelque chose qui était beaucoup plus symétrique finalement, et ça par exemple on s'en est rendu compte sur l'humour, sur le fait qu'on s'est bien marré. Et ça mène un développement des capacités, un développement personnel et professionnel qui dépasse très largement la recherche et la thématique de recherche. Très largement.
Effet boule de neige garanti. Non seulement la recherche donne de meilleurs résultats, mais en plus, au-delà de la recherche, les effets, j'irais même jusqu'à dire les bénéfices collatéraux, sont impressionnants. Mais ça se fait pas tout seul. Pour que la recherche, mes amours, soit menée à bien, il a fallu toute l'intelligence collective, toute la volonté des personnes impliquées, beaucoup de réflexion et d'efforts pour mettre en place un processus qui valorise les savoirs de chacun. Pour bien saisir ce que ça implique, j'ai envie de vous faire écouter une des nombreuses anecdotes, toujours à propos de la recherche Mes Amours, pour laquelle des séances de travail étaient organisées, donc à Lyon, pendant les week-ends, avec tous les co-chercheurs. Ça, c'est l'anecdote que j'appellerai « La première fois, c'était comment ?»
Donc on se met à discuter des différentes thématiques qui sont ressorties en disant bah voilà, dans les entretiens collectifs, il y a tel thème, donc première matinée de formation. Et là évidemment, les professionnels, les chercheurs, les militants associatifs, tout ce petit monde prend la parole allègrement. Et puis on dit ah bah tiens, ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça. Puis on se tourne vers les personnes avec déficience intellectuelle et on dit et vous en pensez quoi ? Et qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent super, bah oui, elles disent rien. Et là on se dit non mais c'est totalement raté ce qu'on est en train de faire, voilà, on est totalement à côté de la plaque en fait. Parce que évidemment les personnes avec déficience intellectuelle, elles pensent moins vite, elles parlent moins vite, elles réfléchissent moins vite, elles ont moins de mots. Donc une fois que tu as occupé tout l'espace sonore avec tes mots, c'est terminé. Donc on s'est dit non, ça va pas du tout. Et donc on a réajusté heureusement assez vite en se disant on va instaurer des règles. Et ces règles, ça s'appelle des cercles de parole. Ça a totalement transformé ce qu'on a recueilli, la façon de procéder. Et puis tout à coup, les personnes avec déficience intellectuelle se sont senties totalement légitimes pour dire ce qu'elles avaient à dire, pour prendre la parole.
Par la suite, les cercles de parole ont très bien fonctionné. Les chercheurs laissaient d'abord s'exprimer les personnes handicapées et les associations avant d'intervenir. Et c'est en partie ça qui a fait le succès de la recherche. Alors là, on a surtout parlé des experts handicapés. Mais il y a aussi d'autres experts non scientifiques qui participent aux recherches. Ça peut être des professionnels ou des membres associatifs, on l'a vu, qui ont aussi des savoirs issus de leurs pratiques ou des connaissances de terrain. Eh bien, figurez-vous que le son de cloche est le même du côté de ces acteurs de terrain. C'est pas non plus facile, évident pour eux, d'intégrer une recherche en tant qu'expert. Pour en discuter, j'ai été voir, enfin façon de parler, Covid oblige, j'ai surtout vu à travers mon écran, j'ai été voir Élodie Gabriel. Elle est psychologue clinicienne et doctorante en psychologie, 18 ans qu'elle bosse en crèche et en PMI, protection maternelle infantile, et en parallèle, elle travaille dans des centres d'accueil médico-social précoces, et en plus, elle est formatrice à l'université. Autant vous dire, une experte. Et bien même pour elle, même quand vous êtes Élodie Gabriel, être intégrée au sein d'une équipe de recherche, c'est pas évident. La recherche à laquelle Élodie va faire référence ici s'appelle EPIL. C'est une recherche qui avait pour but d'identifier ce qui favorise ou entrave les relations entre enfants quand l'un d'eux est handicapé dans des lieux d'inclusion comme l'école par exemple. J'ai demandé à Élodie si ça avait été simple pour elle d'être intégrée en tant que co-chercheuse.
Moi je l'ai ressenti, j'étais pas la seule. C'est l'impression que comme on est clinicien, on ne connaît rien à la recherche et donc on va pas être compétent. Ça, c'est quelque chose que on a été. Alors, j'ai pas parlé avec toutes les psychologues qui ont participé à la recherche, mais il y avait un système d'intervision au cours de la recherche, c'est-à-dire qu'on était organisé en binôme ou en trinôme de psychologues cliniciennes, ou que des femmes, qui participaient à la recherche, et entre les réunions qui réunissaient toute l'équipe de recherche, on avait ces temps pour échanger sur les difficultés qu'on rencontrait, mais aussi sur les données qu'on avait recueillies, Ça permettait d'harmoniser le recueil des données, parce qu'on était quand même nombreuses avec des façons de travailler différentes et des façons d'observer différentes. Et ça permettait aussi de se sentir moins seule, de se poser des questions, de savoir si les questions qu'on se posait étaient pertinentes ou pas. Et donc, effectivement, avec mon binôme de la recherche, on s'est rendu compte vraiment qu'au début, on se disait « mais on ne va pas y arriver, nous, on ne sait pas faire, on n'a pas été formés à ça ».
Ce besoin de formation revient souvent, non seulement pour les scientifiques, mais pour tous les experts co-chercheurs. Et c'est logique, c'est pas inné de maîtriser tous les aspects d'une recherche ou de savoir comment interagir avec d'autres dans ce cadre-là. Heureusement, pour Élodie Gabriel, une fois évacués les doutes du début, ça s'est plutôt bien passé.
Bah, on s'est rendu compte qu'on avait des compétences pour le faire, mais d'abord, la première réunion d'information a été suffisamment claire pour nous dire « vous allez avoir de la formation, vous allez avoir un accompagnement, il y aura toujours quelqu'un donc, qui sera disponible pour répondre à vos questions ». Et ça, c'est vraiment pour le coup, on n'est plus dans les freins, on est dans ce qui favorise la recherche participative. C'est d'avoir une équipe universitaire qui démystifie un petit peu ce que c'est que la recherche, ce que c'est que le monde académique, qui à l'écoute et qui propose des temps de réunion dans lesquels la communication ne se fait pas que du haut vers le bas. La première fois, j'ai été un peu surprise parce que il y avait un temps très large laissé aux échanges. Et en fait, c'était nécessaire parce que quand on ouvre l'espace, quand on ouvre l'écoute, bon ça je le sais hein, par ma pratique, mais finalement il y a des choses qui émergent. Et le fait de percevoir que la communication n'était pas que dans un sens, que nous aussi on avait des choses à remonter à l'équipe de recherche, que nos remarques pouvaient faire évoluer les documents par exemple qui étaient remis aux parents, pouvaient faire évoluer le protocole, pouvaient faire évoluer, il y a quand même beaucoup de points méthodologiques qui ont été modifiés ou questionnés du fait de nos remarques, de nos réflexions de psychologues de terrain.
Se sentir experte, ça ne se décrète pas. Il faut que l'équipe de scientifiques vous accompagne et vous reconnaisse ce statut d'expert. Qu'elle vous reconnaisse comme pair chercheur, pair PAIR, c'est-à-dire quelqu'un de même condition. C'est très frappant dans ce que dit Élodie, comme elle s'est sentie légitime grâce au regard des universitaires, grâce aussi à la mise en place d'un contexte qui permette ça. Organiser des réunions, prendre soin de savoir comment se sentent les participants, bien communiquer, etc. Dans tous les cas, il faut être proactif et ne pas penser que ça se fera tout seul. Et puisqu'on est dans ce qui favorise cette participation d'expertes, continuons d'écouter Élodie Gabriel sur ses aspects positifs.
C'est la posture des universitaires, accueillante, bienveillante, formant aussi, et écoutant, et aussi enthousiasmée. C'est-à-dire que même si on n'avait pas été convaincus, nous, au départ, que c'était un sujet important, quand on les écoutait parler, les trois universitaires qui ont dirigé cette recherche, on ne pouvait pas ne pas être d'accord avec elles que c'était un sujet primordial. Et ça joue aussi, parce que c'est quand même du temps, c'est quand même de l'énergie, c'est de la rigueur scientifique, mais l'enthousiasme à avancer dans les connaissances, ça, voilà, je pense que c'est quelque chose qui favorise.
Chaque recherche est différente, et à chaque fois, on part non pas de zéro, mais d'un contexte spécifique avec certains types d'experts, et il va falloir faire émerger le processus le mieux adapté. Et il y a un point très important, c'est celui des financements. Parce que intégrer des nouveaux experts, c'est super, mais demander aux gens de participer bénévolement, ça a ses limites. J'ai voulu vérifier si Élodie avait été rémunérée en tant que co-chercheuse.
Par rapport à la rémunération, on a été dédommagés plus que rémunérés, nous les psychologues chercheurs, enfin les psychologues qui avons participé au recueil de données. C'était énoncé d'emblée que si on acceptait, on aurait un dédommagement qui ne vaut pas réellement autant qu'on a passé dessus, mais qui symboliquement indiquait que notre travail n'était pas sans valeur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. C'était en plus une recherche longitudinale, donc on a été investi pendant trois ans et demi même en tout, entre la première réunion d'information et le rendu du rapport final. Donc, c'est un projet qui est long dans le temps et sur lequel on aurait pu s'essouffler. Et je pense que cette rémunération, ça fait aussi partie des choses qui disent... C'est pas juste du bénévolat, un truc qu'on fait pour se faire plaisir, c'est un vrai travail. Voilà, je pense que symboliquement, c'est important.
Alors la question maintenant, c'est est-ce que les financeurs des recherches sont prêts à prendre en charge la rémunération de tous les co-chercheurs ? La réponse est non. Et même quand c'est le cas, quand il y a des budgets pour ça, ça ne résout pas forcément tous les problèmes. Dans la recherche Mes Amours, par exemple, un des outils créés, c'est une exposition présentée par des personnes formées spécifiquement et dont le but va être d'en former d'autres. C'est un cas pratique assez intéressant. Des non-scientifiques ont travaillé pendant la recherche d'une part et certaines de ces personnes continuent de travailler pour présenter les résultats et former d'autres personnes. J'ai demandé à Jennifer Fournier si cette recherche valorisait correctement le travail de ces nouveaux experts.
Les personnes avec déficience intellectuelle, en binôme avec quelqu'un qui n'a pas de déficience intellectuelle, sont dans un catalogue de formation, donc sont formatrices, elles vendent de la formation, sont formatrices donc, sur ce projet Mes Amours. Mais, par exemple, on se retrouve avec des difficultés très concrètes, c'est comment on les paye. Très concrètement, plusieurs personnes sont travailleurs ou travailleuses en ESAT, en établissement spécialisé. Et ben, quand on est travailleur ou travailleuse en établissement spécialisé, on n'a pas un statut d'indépendant. On n'a pas un statut d'auto-entrepreneur. On ne peut pas se faire payer. Les personnes, elles sont obligées de prendre des congés pour pouvoir aller former d'autres et donc faire une deuxième partie de leur métier qui est la partie formatrice. Et on ne peut pas les payer, c'est-à-dire qu'on trouve seulement des bricolages pour payer le co-animateur sans déficience qui reverse une partie. Enfin, on n'a pas trouvé de système en fait, c'est-à-dire que politiquement, on défend la pair aidance, on défend le fait que les personnes en situation de handicap interviennent auprès d'autres personnes en situation de handicap, mais on n'a pas des statuts concrets, sociaux, qui nous permettent de valoriser leur participation. Même chose, on a été interpellés, et à juste titre, en disant « bah très bien, vous avez travaillé avec des personnes avec déficience intellectuelle, elles sont maintenant formatrices, comment vous les certifiez ?» Comment vous allez valider par un certificat qu'elles sont formatrices ? Ben voilà, nous, on n'avait pas tellement anticipé ces questions-là, et elles sont en suspens aujourd'hui. On n'a pas pu valider ou certifier des compétences de ces personnes en tant que formateurs ou formatrices. Autre question. Moi, je suis sollicitée très régulièrement à titre de chercheuse pour aller présenter cette expérience de recherche. Mais moi, je suis sollicitée. À qui bénéficie vraiment ces projets-là? Ben, je trouve que, encore, ça bénéficie beaucoup aux chercheurs et aux chercheuses. À mon avis, pas suffisamment aux personnes qui ont vraiment été contributrices et participatives de la recherche.
Alors même que l'implication de ces personnes dans les recherches est bénéfique à tous les niveaux. Meilleure identification des besoins, production de connaissances et d'outils plus pertinentes, et puis on le verra aussi, ça permet une meilleure diffusion et en bout de chaîne une meilleure utilité sociale de la recherche. Et plus j'avance dans ce podcast, plus je découvre que des solutions existent pour favoriser l'intégration de ces experts non scientifiques. Les choses sont en train de bouger doucement en France et on peut s'inspirer du monde anglo-saxon. Il y a des modèles qui existent déjà et qui sont performants. Des cursus universitaires plus longs, par exemple, qui permettent d'avoir des profils de chercheurs plus ouverts à l'accueil de co-chercheurs. J'ai demandé à Julie Desrosiers où est-ce qu'on devrait développer ces modèles qui permettent justement de mieux prendre en compte les savoirs expérientiels.
Il y a des modèles qui doivent venir probablement des universités, puis où est-ce qu'on produit le savoir. Ces modèles-là, je pense à... Il y a l'Open Science, mais la fabrique, en anglais, c'est Science Shop. Ça, c'est des modèles, quand on les voit à l'œuvre, ils sont inspirants. Il y a des universités en Suède, à certains endroits, qui ont des modèles Science Shop. Le modèle Science Shop, comment il fonctionne, c'est qu'une fois par année, ou deux, trois fois par année, c'est vraiment là, on se retrousse les manches et on travaille ensemble. C'est que c'est des gens de la communauté qui viennent à une journée dans les murs de l'université et eux présentent leurs problèmes. Comme un peu, c'est eux qui font le pitch de vente. Voici, j'ai un problème, j'ai telle question. Et là, il y a sur place des étudiants qui, comme un encan, disent, moi, je veux répondre à cette question. Et l'étudiant, ensuite, trouve un professeur chercheur, encadreur, qui va, il va essayer de se matcher en disant, bon, mais celui-là connaît le sujet, donc je vais aller demander de me faire encadrer par ce professeur-là. Alors, la question est vraiment, elle vient du terrain. Et c'est une façon de, les science shops, de démocratiser le savoir. On paye, nos sociétés payent des fortunes pour créer des connaissances. Mais s'ils ne retournent jamais au terrain, c'est vraiment... Ça reste sur une petite élite puis qui peut bien se plaindre que ses connaissances ne sont pas utilisées, tu sais, mais ils font rien pour. Alors, c'est ça. Le Science Shop, là, c'est... Puis on peut avoir des questions de tous les horizons. Tu sais, on pourrait avoir un café qui dit « Moi, j'aimerais bien engager des gens autistes, mais je ne sais pas qu'est-ce que je devrais mettre en place, c'est quoi les meilleures pratiques pour les aider, que ça soit un succès. » Tu sais. Ça peut être une question comme celle-là, ça peut être une question aussi de « On n'a pas les connaissances pour telle chose. » Puis si on demande aux étudiants qu'est-ce qu'ils aiment comme projet, ils vont toujours dire ça. Ils disent « Moi, j'aime quelque chose de concret qui sert vraiment au terrain. Demandez-moi pas de faire une recension des écrits. Je vais m'ennuyer. J'ai envie de faire quelque chose de concret. Puis sentir que c'est cohérent aussi avec mes valeurs. Je fais ça, moi, pour... Je veux que ça serve, tu sais.
Il y a beaucoup de pistes à suivre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il semble qu'il y ait de la volonté et de l'envie de changement. Ça va forcément permettre d'imaginer de nouvelles façons de travailler ensemble et de faire avancer la société pour qu'elle soit plus inclusive. Parce que c'est ça qu'amène la reconnaissance des savoirs expérientiels. Mais l'inclusion, c'est comme la convention. Tout le monde en parle, mais il y en a peu qui la pratiquent. Pour Julie Desrosiers, pourtant, c'est clair qu'il faut aller vers une meilleure reconnaissance des différents savoirs. Et pour ça, il va falloir encore faire tomber quelques barrières mentales.
C'est presque tabou, tu sais, de dire « ben moi, je me reconnais dans l'expérience du patient. Je me reconnais là-dedans. » Et puis... que nos places, ils ne sont pas si figées que ça. Tu sais, il n'y a pas... Il y a des modèles de transfert des connaissances qui s'appellent le Recovery College.
Les Recovery College, ce sont des centres de rétablissement en santé mentale dans lesquels les professionnels et les usagers sont tous actifs et partagent mutuellement leur savoir. C'est une formule qui émerge doucement en France. Je vous spoil un peu la suite, mais Julie va parler aussi de DIAD. En Suisse, ils utilisent pas mal ce mot. Moi, je ne l'avais jamais entendu. Alors, au cas où, je vous l'explique. Une dyade, c'est un ensemble de deux éléments. Et dans le cas qui va suivre, c'est un binôme. Reprenons sur les centres de rétablissement.
Dans ces modèles-là, qui sont pourtant assez intéressants, on dit, on va prendre quelqu'un qui a un savoir théorique, puis quelqu'un qui a un savoir expérientiel, puis c'est eux qui vont donner le cours ensemble. Bien, ça pose quand même problème parce qu'on demande aux gens de se mettre dans un clan. Pourquoi on ne demande pas aux gens qui ont... vous n'auriez pas les deux, tu sais? Ça reste que ces dyades-là, il y en a un qui est du côté des normaux parce que lui, c'est le savoir théorique qu'il représente, puis l'autre qui est comme le patient, la petite bête qu'on... Même si on essaie de ne pas le faire, là, mais c'est quand même celui qui a la maladie, tu sais. Je pense que ces clivages-là qui existent entre, bien, voici, toi, tu représentes le savoir théorique, puis toi, tu es le savoir expérientiel... Ça manque de fluidité, puis ça nous aiderait beaucoup d'ouvrir là-dessus. Tu sais, puis il y a des établissements chez en Angleterre qui sont très, très à l'avant-garde où est-ce que quand ils engagent un professionnel de la santé, ils demandent à ce que la personne ait aussi un savoir expérientiel, soit comme proche aidant, soit qu'elle-même, elle ait vécu un problème de santé mentale. Ils disent ça, c'est notre condition parce qu'on veut des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça, c'est valorisé. On dit, on vous engage seulement si vous avez ça. Parce que le savoir théorique, c'est une chose, mais le savoir expérientiel, il est quand même très important. Mais tu sais, si on n'a pas des structures comme ça qui disent, bien, nous, c'est presque qui force le coming out. C'est une condition. Je pense que c'est ça qu'il faut comme amener, c'est de dire, ben, ce qui est le plus riche, c'est ces partages-là d'expérience, de savoir, et pas je suis le chercheur et l'autre est le malade. Là.
À écouter Julie, j'ai l'impression qu'on est à deux doigts de changer le monde. Ce qui me paraissait être une utopie lointaine prend forme dans certaines structures. Un monde presque idéal se dessine, un monde dans lequel les savoirs sont reconnus d'égale valeur parce que les personnes sont considérées d'égale valeur. Julie a continué à me parler de ce monde merveilleux dans lequel les personnes sont des personnes, qu'elles soient handicapées, scientifiques, chercheuses.
Il y a une grande chercheure qui était reconnue dans le monde du traitement. Elle a inventé le meilleur traitement pour les troubles de personnalité limite. Et puis un jour, à 75 ans, Elle a décidé de faire son coming out et elle a révélé à tout le monde qu'elle aussi, elle avait un trouble de personnalité. Puis tu sais, quand on parle de valorisation là, puis de place du chercheur, elle a complètement perdu sa place. Dans les congrès, on ne l'invitait plus. Pourtant, tu sais, c'était hyper solide parce que elle a comme... C'est comme si c'était une transfuge. Là. Elle venait de passer de l'autre côté. C'est Marsha Linehan. Quand elle a fait son coming out, elle l'a fait dans une cellule en psychiatrie, là, une chambre d'isolement capitonnée, là, comme dans les films américains. Là. Elle a dit, moi, je me suis... dans cette cellule, je m'automutilais beaucoup. On m'a mis ici pour pas que je me fasse du mal. Tout ce qui me restait, c'était à me taper la tête. Je me suis tapé la tête sur les murs de cette cellule ici pendant 3 ans. Et puis après, ben, je me suis dit, il faut que j'aide les autres. Mais depuis qu'elle a fait son coming out, là, c'est incroyable ce que ça a apporté comme aide aux gens qui ont un trouble de personnalité limite, parce qu'ils ont dit, tout à coup, elle qui m'aide avec cette thérapie-là, elle est partie de là, bien aussi bas de ce que moi je peux être, là, comment je me sens. Puis regarde où est-ce qu'elle est arrivée en ouvrant sur son savoir expérientiel.
Je vous laisse avec Marsha Linehan en tête. De toute façon, pour être honnête, mon micro a coupé à ce moment-là de l'histoire. J'avais plus de place dans ma carte mémoire, mais je crois que l'essentiel a été dit. Dans le prochain épisode, je vais m'intéresser au support d'application. Support d'application, ça vous parle pas ? Eh bien, raison de plus pour écouter l'épisode 4. Merci encore à Riyad Salem, Jeanne Tandero, Florence Leroy, Julie Desrosiers, Jennifer Fournier et Elodie Gabriel pour leur participation sonore. Et merci, bien sûr, à Marsha Linehan.
Handicap, au défi du transfert de connaissances. Une série audio réalisée par Blandine Lacour et Maxime Huige dans le cadre du programme Clap sur la recherche. Clap sur la recherche est coordonné par la FIRA et soutenu par la CNSA et la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Retrouvez tous les épisodes en ligne, en accès libre et gratuit, sur le site de la FIRA, fira.org, et sur les plateformes d'écoute de podcasts.